Vous m'en direz des nouvelles ? Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Tania Tsikounas.
Bonjour, bonsoir. Un avion au fuselage en forme de micro rétro qui vole dans un ciel bleu parsemé de quelques nuages de beau temps. La voix d'or de la chanteuse malienne Oumou Sangaré et l'électro de Synapson. Voici Bensema, le nouveau single du duo français de synth-pop qui vient d'obtenir un Grammy Award. Le duo fête cette année ses 10 ans. Alex et Paul sont avec nous dans VMDN. L'occasion de revenir avec eux sur leur rencontre, leurs influences, leur univers et leur créativité. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour. Et bonjour Alex.
Bonjour.
Vous êtes donc les deux têtes du duo Synapson. Alors ça c'est pas Bensema, hein,
évidemment, non,
qu'on va entendre évidemment. Dans un instant c'est Hideaway, l'un de vos plus grands succès. Hideaway ça veut dire se cacher, ça veut dire cachette. Alors on va essayer de savoir ce qui se cache un petit peu derrière Synapson. Quand on fête ses 10 ans c'est un petit peu bien le moins. Paul, est-ce que vous pouvez pour commencer nous présenter Alex ?
Ok, donc Alex est un jeune homme de 32 ans. Il est pianiste de formation. Du coup voilà, il a créé le groupe avec moi il y a 10 ans maintenant. Que dire de plus, c'est un excellent musicien, autant en studio qu'en live. Formation plutôt jazz on va dire. Voilà.
Alex, est-ce que vous pouvez nous présenter Paul ?
Je vous présente Paul qui a également 32 ans, que j'ai rencontré maintenant il y a plus de 20 ans, qui est un grand fan à l'origine de hip-hop. Et de musique électronique également, autodidacte en tant qu'ingénieur du son et qui pour moi est aujourd'hui un des meilleurs avec lequel j'ai, enfin le meilleur avec lequel j'ai collaboré et un des meilleurs de France.
Et vous avez collaboré avec beaucoup de gens, vous avez beaucoup de comparaisons ou pas ?
Pas tant que ça, mais assez pour dire que c'est le meilleur.
Alors comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ?
C'est
donc il y a un peu plus de 10 ans quand même la rencontre. Ah, vous n'avez pas créé le groupe tout de suite.
Non, c'était il y a plus de 20 ans. On s'est rencontrés, on avait 8 ans, on partait dans la même résidence à Biarritz pour nos vacances. On se voyait une fois par an. Et voilà, toutes les années on se voyait. On était des super copains et on s'est dit quand Paul arrive à Paris, puisqu'il n'habitait pas à Paris encore, on tentera l'expérience de faire de la musique ensemble. Paul est arrivé il y a 10 ans et on a monté Synapson.
Mais qu'est-ce qui vous a réuni à la base ? Parce qu'un parcours plutôt hip-hop et un parcours plutôt jazz, c'était pas forcément une rencontre évidente.
Dans nos cercles d'amis respectifs, on était un peu les deux mordus de musique. Avant d'en faire, on en écoutait déjà surtout beaucoup, beaucoup. Donc ça a commencé comme ça, vraiment à s'échanger les disques. On était déjà très curieux, comme tout passionné de musique, de ce qu'écoutait l'autre aussi. Hein, donc pour découvrir de nouveaux territoires musicaux.
Donc vous avez déjà bidouillé déjà tous les deux, alors même là, pendant les vacances à Biarritz ?
Non, au tout début non, ça a commencé à la fin du collège quand nos parents nous laissaient prendre le train ou l'avion pour aller voir l'un ou l'autre. Et là effectivement, moi j'avais une première platine, il avait ses premiers synthés, on s'enregistrait on gravait des CD, après sur mini disques, enfin voilà, on a connu un peu tous les supports. Et quand on a passé notre bac, moi j'avais une petite émission de radio sur Radio Campus à Toulouse, et Alex faisait déjà les petites maquettes en revanche, que je m'amusais à diffuser à l'antenne, voilà, nos premiers échanges ça a été cela.
Alors Synapson, c'est un mot valise, hein, comme on dit, donc oui. Les synapses et le son, on va commencer par les synapses. Les synapses, alors je suis allé vérifier quand même parce que j'en étais pas complètement sûr, c'est les connexions nerveuses, donc les contacts entre deux neurones. Comment est-ce que vous avez senti que vous étiez connectés tous les deux ?
On l'a senti pas au début, pas du tout au début. On l'a vraiment senti après au moment de l'album Convergence. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment où on s'est retrouvés musicalement. Avant, c'était un petit peu une espèce de pot-pourri où chacun essayait de mettre un maximum de ses influences. Et sur Convergence, on s'est retrouvés sur cet univers un peu deep, un peu world qu'on affectionnait particulièrement et auquel on revient maintenant notamment avec Benzema.
Mais alors, les synapses, c'est quand même très très intello, ça, synapses. Ouais, synapses. Est-ce que vous êtes...
Non, pas du
non,
tout.
En plus, non, en plus, on est très mauvais scientifique, autant Alex que moi. Mais non, c'est...
Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de réflexion, quand même, oui, dans, non, votre, en fait, dans votre travail. C'est aussi un petit peu ça, l'idée.
En fait, c'est surtout que, pour la petite histoire, ce mot-là, on l'a appris en cours de biologie. Ouais. SVT, oui. On a, je sais pas, ça s'appelle encore comme ça. En cours d'SVT, voilà, on étudie le système nerveux, on a appris ce que c'était qu'une synapse. Et je vais à cette période-là, mon premier téléphone portable. Alex était avant-gardiste, il l'avait depuis déjà plusieurs années. Je lui ai fait un texto disant, ouais, si un jour on monte en groupe, on s'appellera Synapson. Et il y a 10 ans qu'on a commencé l'aventure. On s'est créé à l'époque, c'était MySpace pour diffuser notre musique en ligne. Et il m'a dit, tu te rappelles de Synapson? Et voilà, en fait, à la base, c'était juste pour trouver un nom de code pour MySpace et un endroit pour diffuser notre musique, et voilà, et depuis, ça fait 10 ans que ça nous suit.
Voilà. Alors, donc on a beaucoup parlé des synapses, on va peut-être un petit peu parler du son quand même maintenant, parce que ça
vous
intéresse aussi.
C'est le plus important.
Un tout petit peu. Alors, quel est le son ou les sons qui vous intéressent, Paul?
Les sons qui m'intéressent, un peu tous. C'est vrai que, en général, dans un morceau, on va dire sur la musique actuelle ou pas forcément, j'attache beaucoup d'importance aux percussions, à la batterie. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup plus m'attarder. Après, qu'est-ce qui m'intéresse comme son? Vraiment tout, parce que les textures sonores, en tant que justement apprenti ingénieur du son, voilà, je suis assez passionné par même l'image stéréo, tout ça. Vraiment, je trouve que c'est un vivier, c'est d'une richesse quand on commence à se plonger dedans. Je trouve qu'en plus, par la technique d'ingénierie sonore, il y a tout un aspect créatif aussi, surtout dans la musique électronique. Donc moi, je trouve, voilà, toutes les sonorités, je les trouve assez passionnantes.
Alex, c'est quoi un son intéressant?
Alors, un son...
Qu'est-ce qui fait que votre oreille va être charmée, intéressée, au point éventuellement d'avoir envie de le retravailler?
Alors moi, ce sera peut-être moins la structure que de la façon dont il est joué. C'est-à-dire que je vais peut-être moins prêter attention aux différents sons que pourrait proposer une guitare. Par contre, je vais être hypersensible à la façon dont elle est jouée et au groove que ça apporte. Maintenant, je pense que... Alors, je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais pour être fan de groupes comme Vulfpeck, qui sont des groupes où les morceaux sont très instrumentaux et où ça joue énormément... et où il y en a beaucoup, avec le temps, je m'attache plus vraiment à avoir le moins d'éléments possible dans la musique, mais à ce que ce soit les bons. Parce que je trouve que un bon élément touche tout de suite et qu'il n'y a pas besoin de mettre plein de floritures autour. Donc j'apporte pas forcément moins d'importance à la texture que à la façon dont c'est joué et au message qui passe.
Et les rythmes et les couleurs sonores africaines vous intéressent
beaucoup,
particulièrement?
Beaucoup, beaucoup, surtout On a la chance de pouvoir potentiellement collaborer avec plein d'artistes, pour en citer quelques-uns, Pongo, David Walter, voilà, Oumou Sangaré, qui est un honneur pour nous.
Victor Démé,
et voilà, on est vraiment attaché à toute cette musique-là. Et moi, je me suis mis justement à découvrir un peu tout ce que j'aimais, la funk, etc., mais la façon dont elle est jouée est transmise en Afrique, et il y a un rythme de fou, c'est impressionnant. Sangari, Snapson, Wallahi Moumani, Bessima, Moumani,
Oh,
Benzema, Synapson, nos invités aujourd'hui dans VMDN sur RFI. Ça veut dire quoi, Benzema?
Benzema, c'est le hasard.
Rien à voir avec Karim Benzema. Hein,
à la place du Z.
C'est le hasard. Comment est-ce qu'elle est née, cette chanson, et comment vous avez été amené à travailler avec Oumou Sangaré?
À l'origine, en fait, Alex jouait dans nos DJ sets un remix d'un morceau d'Oumou Sangaré.
Fadjamou.
Voilà, Fadjamou, qu'on adorait. Donc, on adorait cette voix. Chaque fois que le morceau passait, on était en transe. Et du coup, Alex m'a envoyé ce morceau-là. La maquette, la démo. On a décidé de le finir, de le bosser. Et une fois qu'on avait quelque chose de présentable, on a demandé à nos managers de contacter les siens. Et voilà, on a réussi à enregistrer le titre à Paris. Pour la petite anecdote, en plus, on a loué le studio qui est en dessous de ces bureaux là où on travaille ses équipes en France. Donc voilà, elle était un peu à la maison, c'était assez drôle. Mais ouais, voilà, c'était une super session studio. Alex en parlait hier soir. Elle a une aura vraiment particulière quand elle rentre en studio et tout. C'était vraiment cool.
C'est impressionnant. Alors ouais. Benzema, ça sonne très world, ça sonne très multiculturel. Il y a un mot que vous avez employé depuis le début de cette émission, c'est le mot convergence, qui est aussi effectivement le titre d'un de vos albums. L'électro, c'est ça, c'est l'art de la convergence, c'est l'art du.
C'est honnêtement de l'osmose. Quand on nous demande de quel style de musique vous faites, on n'est jamais capable de répondre. Je trouve que électro, je sais, faire de l'électronique aujourd'hui, ça veut tout dire et rien dire parce qu'on y classe beaucoup de choses. On va dire qu'elle est électronique techniquement parce qu'elle est faite avec des machines quelque part. Mais d'un point de vue style, j'ai plus l'impression de oui, alors c'est peut-être nous qui allons puiser dans ce qu'on peut entendre sur le continent africain, l'Amérique du Sud, etc. Et on essaye de l'amener dans notre musique. Pour faire un bon mélange. Maintenant, est-ce que la classification serait électro? Je sais pas trop.
Mais est-ce que la voix est un élément essentiel?
Oui, parce qu'avec Synapson.
On parlait de celle de Oumou Sangaré, mais il n'y a pas que.
Non, bien sûr, bien sûr. Justement, on est en train de préparer plein de collaborations avec des voix vraiment, vraiment géniales. Et la voix, c'est essentiel parce qu'avec Synapson, on a toujours eu quand même plaisir à écrire des chansons. Peut-être ça, c'est ça qui, enfin, maintenant de moins en moins, mais qui change avec la musique électronique traditionnelle, peut-être. Nous, on aime bien écrire des chansons, donc on aime bien les composer. Et c'est vrai que on compose d'abord, et après, les voix, on fait des sessions studio avec les chanteurs et chanteuses. Et du coup, c'est vrai que chaque fois qu'on rentre en cabine pour enregistrer des voix, c'est toujours un moment un peu particulier pour nous parce que ça finit la chanson qu'on a imaginée et on est souvent surpris d'ailleurs des propositions vocales des différents artistes avec qui on collabore.
Et votre premier EP en 2010 s'appelait Haute Couture. Est-ce que composer, justement, c'est un travail de haute couture?
Complètement. Complètement. En plus, on a un petit orgueil de production à essayer de faire tout un maximum tous les deux. On est deux, l'union fait la force, donc on essaie de tout faire nous-mêmes.
Et aujourd'hui, et c'est l'artisanat. On en est fiers. De la compo au mastering, on fait tout seul.
Parce que pourtant, quand on entend un titre comme les vôtres sur les dance floors, on se dit que ça devrait plutôt être du prêt-à-porter. C'est-à-dire que lorsque le titre sort, il faut que chacun puisse se l'approprier. Donc comment on transforme de la haute couture à la composition en prêt-à-porter une fois sur les pistes de danse?
Malheureusement, je pourrais citer personne, mais c'est aussi un peu le graal, je veux dire, de la haute couture, de faire un vêtement peut-être très élégant, mais qui peut aller à tout le monde, quoi. Est-ce que ça, c'est pas...
C'est exactement quand je parlais tout à l'heure d'avoir moins d'éléments, mais les bons, c'est souvent ça, en fait. C'est-à-dire d'arriver à amener la bonne mélodie, la bonne rythmique, sans en mettre beaucoup, et qui parle tout de suite à tout le monde.
Il faut que ce soit joyeux, il faut que ce soit entraînant. Le but, c'est quand même de faire quelque chose de festif.
Alors, nous, on compose exclusivement dans la gamme mineure, donc ce qui est plutôt réputé pour être triste.
Et pourtant...
Mais effectivement, voilà, par le groove, les lignes de basse, la rythmique, l'énergie dégagée, voilà, on arrive à une mélancolie assez heureuse et dynamique, en tout cas.
Mais c'est vrai que là, quand on regarde le clip de Benzema, c'est très poétique, c'est très entraînant, ça donne évidemment envie de bouger. Je parlais du visuel tout à l'heure avec ce micro avion. La scénographie, le visuel, c'est quelque chose de très important qui naît après la composition ou en même temps?
Non, qui naît après. C'est marrant que vous parliez de ça. C'est quelque chose qui nous a pris quand même beaucoup de temps.
Ouais.
Ça a été
très
compliqué.
On a beaucoup plus travaillé la musique que notre image les premières années.
Et là, pour le coup, on s'est vraiment penché sur l'image. C'était très important pour nous. Et tout ça est venu après, mais c'est pas forcément Benzema à proprement parler qui nous a donné envie de faire ça, mais plutôt tout ce qu'on prépare aussi par la suite. On a voulu vraiment que ça forme une unité, que ce soit très cohérent. Donc d'ailleurs, vous le verrez avec les visuels des autres titres, tout tourne autour de ça. Et oui, en effet, c'est quelque chose de très travaillé. Et on a voulu mélanger un petit peu ce qu'est notre musique, ce qui est la musique Synapson, avec une touche de World, avec le voyage, avec tout ça. On a essayé de le réunir visuellement.
Mais Benzema, c'est le titre de votre prochain album? Parce que j'ai lu qu'il n'y aura pas de prochain album, que l'objet album ne vous intéressait plus, c'est vrai ça?
Bah en fait, aujourd'hui, avec les nouveaux moyens de consommation, on s'en est surtout rendu compte sur le dernier disque. Une fois que le disque sort, tout est un peu cramé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musique tous les vendredis qui sortent, des nouveautés donc chaque semaine et en masse. Donc je pense que les gens ont moins le temps de se pencher sur un album entier. Donc nous là, on a plutôt décidé de sortir titre par titre. Aussi pour des raisons un peu égoïstes pour nous et de plaisir, c'est-à-dire que faire un album ça prend presque 2 ans, de le sortir ça prend au moins 6 mois, donc voilà, ça c'est des process très longs. Là, en travaillant titre par titre, on va pouvoir sortir beaucoup plus souvent de la musique et on est bien plus motivé et heureux de les défendre parce que c'est encore frais. C'est ça qui est sympa.
Maintenant, une fois qu'on aura sorti 4 ou 5 titres, on aura peut-être envie en effet de les regrouper sur un format et puis de proposer des inédits qui les accompagnent, à ce moment-là de faire un album. Mais pour le moment, on préfère sortir les titres titre par titre.
Merci beaucoup à tous les deux. Je précise que vous allez fêter les 10 ans de Synapson le samedi 28 mars prochain à Paris au Cabaret Sauvage avec le funk de Guts, l'afro soul de Julien Lebrun et le côté un peu rétro disco funk de Mirabeau. Rendez-vous aussi un petit peu plus tard le 2 avril à Bordeaux, le 3 à Lyon, le 4 à Montpellier, le 13 à Courchevel, le 17 à Grenoble et le 9 mai à Nantes. Merci beaucoup Paul et Alex.
Merci à vous, merci beaucoup.
Joël Soldat. Il a sorti un maxi de 6 titres en décembre 2019 intitulé Faso, la patrie en langue Dioula, une langue parlée en Afrique de l'Ouest. Comme vous le savez, Joël Soldat est un rappeur burkinabé qui se fait de plus en plus connaître en ce moment sur la scène internationale. Il était de passage la semaine dernière à Paris et Kpenaï Traoré était à son concert. C'était à la Boule Noire.
Joël Soldat, c'est nom d'artiste. Soldat, c'est pour rendre hommage à mon grand-père qui a été tirailleur. Ils appellent des anciens combattants.
Joël Wayne Twin Sawadogo, ne vous fiez pas à son air de garçon timide qui laisse échapper un petit sourire après chaque phrase. Donne-lui un micro, il devient Joël le soldat.
Les bras comme ça, tout le monde. Quel est l'énervé?
Bête de scène qui harangue les spectateurs comme ce soir du 14 février sur la scène de la Boule Noire à Paris. C'était ma première fois d'assister à un concert de rap et Joël le soldat m'a surpris par sa fougue. Un foulard rouge attaché autour de la tête pour maintenir ses dreadlocks, Joël le soldat est comme pris d'une transe qui donne la chair de poule. Il fait partie aujourd'hui des porte-flambeaux du rap africain qui a besoin d'une visibilité internationale. Pour lui, cela passe par la valorisation de sa culture en chantant par exemple dans les langues locales.
Et après, j'écoute beaucoup de musique traditionnelle africaine. Moi, je puise dans le traditionnel pour faire ce rap-là. C'est très important parce que moi, quand j'écoute la musique traditionnelle, ça m'inspire beaucoup. Voilà, et ça me parle beaucoup. Et je puise dans ça. Cette envie de s'ouvrir au monde et de partager notre point de vue, de défendre le rap africain, voilà, sur le plan international. Ben, si tu as remarqué, moi je rappe 90% maoris et peut-être 10% français.
Petit à petit, le rappeur burkinabé se fait une place sur la scène internationale et se fait remarquer par sa façon de rapper. Une voix grave, un électro-rap teinté d'une touche de musique traditionnelle, son flow à lui, comme on dit dans le milieu. Quentin Leroy, manager et producteur du dernier maxi de 6 titres de l'artiste.
C'est qu'il a des convictions très fortes et un engagement très fort aussi et que ça pousse à réfléchir, à prendre conscience de ce qui se passe autour de nous, de l'environnement, des problèmes politiques, économiques, etc., écologiques.
Qu'est-ce que vous aimez dans la musique de Joël le soldat?
J'aime sa rage, j'aime son positionnement, sa posture, j'aime, J'aime ça, son aura.
Un aura qui a conquis le public burkinabé en 2014 quand son deuxième album Burkimba sonne comme une prémonition. Le titre phare est presque devenu l'hymne de la révolte populaire qui a fait tomber le président Blaise Compaoré après 27 ans de pouvoir. Son engagement prend alors du sens à travers sa musique.
J'appelle le peuple à s'unir, à s'entendre et à marcher ensemble. Burkimba, c'est le premier mot quand tu chantes le Ditanie, l'hymne national du Burkina, et Amoré, parce que ça désigne tous les intègres. C'est un morceau qui appelle à l'unité, au partage et à marcher ensemble. Et l'album est arrivé dans un moment où l'histoire du Burkina allait prendre un changement. Et comme les gens m'ont dit, quand ils ont écouté l'album, ils ont eu l'impression que moi, je savais ce qui allait arriver. Et cet album, ils ont repris beaucoup de morceaux pendant cette insurrection. Ça fait l'histoire de cet album aussi. Ça m'a fait plaisir.
En dehors du Burkina Faso, Joey le Soldat chante également la cause d'autres pays africains. En témoigne le titre « J'ai mal au Congo ». Le rappeur burkinabé a 3 albums à son actif et un 4e en cours d'enregistrement.
Oui, j'écris, j'ai mal au Congo, hein, que la Belgique a la mémoire si courte, qui crée des guerres et profite du diamant, qui vend des armes pour que jamais y ait la paix. Congo, rappelle-toi.
Sans Joey, la dignité, le Soldat, un reportage pour FMDN signé Kpenaï Traoré.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Amélie Beaucourt, Marjorie Bertin, Fanny Bleffner et José Marinho. Bonjour à tous les 4.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Amélie, vous avez eu la chance de rencontrer un des maîtres de la bande dessinée et de reportage, l'américain Joe Sacco.
Oui, après ses reportages en Palestine et en Bosnie, il s'est penché sur le Canada et ses Premières Nations et en a fait un récit à la fois anthropologique et écologique.
Vous, Marjorie, vous êtes rendue au musée Bourdelle, c'est à Paris, c'est un jet de pierre de la gare Montparnasse, et vous avez plongé dans un monde étrange, celui du sculpteur danois Niels Hansen Jacobsen.
Oui, le musée Bourdelle accueille la première exposition française dédiée à ce symbole très onirique et assez inquiétant.
Alors dans ce café gourmand, on ne manque pas d'air. Enfin, on aura avec vous tout à l'heure, José, la moitié du duo R, Nicolas Godin.
Courant d'air. Voilà. Donc il revient justement avec son 3e album solo. Vous allez voir, c'est bien.
Mais pour commencer, on part au cinéma avec vous, Fanny, pour un film sobrement intitulé « Des hommes ». On commence par un léger bond dans le temps. Nous sommes en 2012. Le contrôleur des libertés sort un rapport dans lequel il est question des conditions de détention au Baumettes, le centre pénitentiaire de Marseille, dans le sud de la France.
Il qualifie ces conditions d'inhumaines. Alice Audio et Jean-Robert Vialet, deux journalistes, chacun décoré d'un prix Albert Londres, sont alors en tournage sur un autre projet. Ils font immédiatement une demande d'autorisation pour venir filmer au Baumettes. Cette demande prendra 4 ans à aboutir et pour cause, ils viennent sans idée très ciblée de thème pour le film. Simplement pour rencontrer les détenus, ouverts à ce qu'ils découvriront sur place, ils ont décidé de se focaliser sur le quartier homme.
Maintenant, heureusement, les détenus ont le droit de montrer leur visage. Ils en ont un, donc ils ont eu envie de nous le montrer. Ils ont une voix, ils ont eu envie de nous parler et nous, on s'est saisi en fait de leur désir de témoigner et de montrer en fait ce qu'ils vivaient. On s'est saisi aussi de l'envie de la pénitentiaire d'ouvrir cette prison. Je pense prise dans un début de réflexion sur ce que doit être l'enfermement aujourd'hui, ce que doit être une peine. On a bénéficié d'une liberté absolue. La seule limite étant de ne pas aller dans le bâtiment des personnes prévenues, non encore condamnées par la justice.
Et cette liberté totale va donc leur être accordée pour 25 jours de tournage.
Et le film, au final, ne propose pas une histoire linéaire, mais bien une immersion dans cet univers.
Ce qu'on a essayé de faire, c'est une sorte de radiographie de la prison. On a essayé d'emmener le spectateur à l'intérieur. Et effectivement, c'est un film un peu choral, on va dire, avec des personnages avec lesquels on passe un moment. Certains d'entre eux reviennent, mais on n'a que des personnages au sens du personnage de cinéma. On n'a que des personnages secondaires, il n'y a pas de personnages principaux.
On croise ainsi de très jeunes hommes qui évoquent leurs affaires respectives. Un détenu qui parle des relations compliquées avec sa mère. Et puis il y a à plusieurs reprises une histoire particulièrement violente qui revient.
Depuis que je suis au Baumettes,
Il y a eu trois morts. Un, dans ma promenade, il s'est fait lyncher. Et je l'ai vu de mes yeux. Ça fait de la peine, c'est... Tu vois. Tu le vois se faire frapper, le pauvre. Et son 5-6 sur lui, tu peux pas te mêler. Sinon, ça va être toi, tu comprends.
Et la violence, elle naît aussi des conditions de détention, hein, comme dans beaucoup de prisons de France. Les baumettes sont surpeuplées, quelques chiffres, hein, simplement Fanny, 30 000 mètres carrés, 2 000 détenus, dont la moitié n'a pas 30 ans.
Des données comme celle-ci, il y en a très peu dans le film, il n'y a pas de voix off. La caméra est au plus proche des détenus, même si elle nous accorde quelques respirations à travers des couloirs vides, une cour vue depuis une cellule.
Être proche comme ça, ça signifie aussi qu'on peut laisser à l'autre le silence, son silence, entendre sa respiration, lui permettre de parler tout doucement. Et c'est ça qu'on cherchait aussi, en fait. C'est d'entrer dans cette sphère émotionnelle où on va pouvoir partager une émotion avec eux. Donc on avait bien d'autres choses à faire, en fait, que de filmer les rats et la crasse. Enfin, bien d'autres choses à approcher.
Car l'inhumanité évoquée par le contrôleur des libertés, elle passe par autre chose pour Jean-Robert Vialet.
Elle réside dans l'absurdité des peines courtes de ces gens qui sont enfermés et qui vont devenir plus délinquants après, alors qu'il ferait mieux d'être en formation dehors. On se demande pendant tout le film, mais qu'est-ce que font ces gens ici? Et en tout cas, une partie d'entre eux, une grosse partie d'entre eux. Ça, c'est inhumain. L'inhumanité, elle surgit aussi au détour de la solitude, de l'ennui. C'est l'inhumanité du système qui est plus importante à regarder simplement que l'insalubrité.
Et l'ennui, justement, Fanny, il est très visible dans le film ?
Non, il se traduit par ces dizaines de cigarettes fumées, des corps à l'arrêt, faute d'occupation.
Heureusement qu'il y a le travail. Parce que ceux qui ne travaillent pas, qui ont qu'une une promenade par jour, c'est pas évident non plus pour eux. Une promenade par jour, c'est enfermé. Si j'étais comme ça, j'étais enfermé tout le temps. Et mon père, moi, j'étais pas encore travailleur. Pendant 3 mois, on sortait, on était 23h, 22h30 sur 24 dans la cellule. Une promenade de 1h30 seulement. Vu que j'étais à l'étage travailleur, c'était compliqué. Alors, les prises de tête, elles étaient souvent. Avec mon père, c'était chaud après, à chaque fois. Alors, on se parlait plus, on se tournait le dos. À 9 mètres carrés, comment ils voulaient qu'on fasse? Mais il valait mieux que nous pour la tête, mon père, qu'avec un autre fada. Mais sincèrement, c'est une expérience de la vie que j'oublierai jamais. Mon père, c'est lui, là, avec moi, pour le vivre quand même.
Et puis, il n'y a pas que des détenus qui sont filmés, Fanny.
Effectivement, Jean-François, il y a de nombreuses scènes avec des membres du personnel pénitentiaire, ceux qu'on a coutume d'appeler les matons et qui souffrent d'une image peu reluisante.
On a vu des gens au boulot qui travaillent dans un système absurde, qui se débrouillent dans ce système absurde pour ramener parfois un peu d'humanité. Vous avez des hommes face à des femmes, souvent d'ailleurs, ce qui est assez marrant parce qu'il y a beaucoup de personnel chez les surveillants qui sont des surveillantes en réalité dans les prisons d'hommes. Et la présence des femmes est fondamentale. Ça permet aux hommes de sortir de la virilité.
Des femmes qui écoutent, des femmes qui jugent aussi.
On vous a accordé notre confiance. Vous avez été classé. Vous avez eu un poste qui demande effectivement qu'on accorde confiance à la personne qui tient ce poste-là. Et vous vous êtes moqué de nous. D'accord ? Vous vous êtes moqué de nous. Et malgré votre attitude parfaite tantôt, nous avons décidé, la commission de discipline a décidé de vous sanctionner de 20 jours de quartier disciplinaire, donc 10 jours avec sursis, et 60 jours de suppression du parloir sans dispositif de séparation.
Et on a un peu l'impression, Fanny, que toutes ces peines sont vaines.
Le film s'ouvre d'ailleurs sur un long plan séquence d'un détenu qui tourne en rond, presque comme un animal en cage, on est tenté de penser, derrière une vitre, dans ce qui ressemble à une salle d'attente, une scène qu'on retrouve également à la fin du documentaire.
Pour raconter tout simplement, symboliquement, l'absurdité de l'enfermement, l'arriération du système et le fait que l'ensemble tourne en rond, y compris les parcours délictueux qui continueront à tourner en rond parce qu'après une expérience de prison, on ne sort pas soigné, on ne sort pas guéri du délit et du crime, on sort renforcé et sans doute qu'on replongera et qu'on récidivera.
Et malgré tout, l'humanité évoquée dans le titre subsiste. Une petite précision pour finir, les bâtiments historiques des Baumettes ont fermé en juin 2018 et devraient être détruits cette année.
Des hommes, le film d'Alice Audio et Jean-Robert Vialet en salle en France depuis ce mercredi. Merci Fanny. direction le Grand Nord canadien, où l'auteur de bande dessinée et journaliste américain Joe Sacco signe donc son retour. Payer la Terre est une coédition Futuropolis et 21. C'est un reportage en dessin qui porte la voix des Dénés, cette population indigène dont la terre a été copieusement pillée pour l'extraction des ressources. Après avoir couvert la Palestine ou la Bosnie, Amélie, il revient donc, Joe Sacco, avec un mélange entre récits anthropologiques et plaidoyer écologique.
Oui, comme dans chacun de ses albums qu'il dessine en noir et blanc, on suit ses aventures à lui, journaliste, avec ses lunettes et son carnet de notes. Cette fois, il est accompagné de son amie canadienne Shona, qui lui sert de guide, et ils partent tous deux à la rencontre des premiers habitants du Nord-Ouest, c'est le nom d'un des trois grands territoires fédéraux du Canada. Alors avant toute chose, j'ai trouvé important de revenir sur la terminologie qu'on doit employer pour parler de ces hommes dont il est question, ces peuples autochtones, parce qu'il existe de nombreuses appellations différentes qui ne sont pas acceptées partout. J'ai donc demandé à Joe Sacco comment lui, il s'y était pris.
Aux États-Unis, le terme « indien » est utilisé. Moi, je préfère dire « natif américain », mais j'ai déjà entendu des Indiens s'appeler eux-mêmes Indiens. Au Canada, par contre, on n'utilise jamais cette terminologie-là. Ils préfèrent « population indigène », « aborigène » ou encore « peuple des Premières Nations ». Mais les gens que j'ai rencontrés plus spécifiquement étaient appelés les « Dénés », qui signifient tout simplement « les hommes ».
Donc un album qui parle donc des Dénés, Amélie, c'est une ethnie, un groupe de Premières Nations qui partagent une langue, mais qui peuvent avoir des modes de vie assez différents, même si à l'origine, Joe Sacco n'avait pas du tout prévu d'écrire là-dessus.
Non, vous avez raison, c'est une histoire sur le changement climatique qu'il voulait écrire en premier lieu. Il s'est donc intéressé de près à l'extraction des ressources en périphérie et à la façon dont elle affecte les habitants et en particulier les populations indigènes. Et puis en fouillant un peu, il se rend compte que sa bande dessinée va être bien plus grosse que ça.
Sur place, je me suis rendu compte que l'histoire allait au-delà de ça, qu'elle parlait en réalité de colonisation et de décolonisation. Les Anglais n'avaient jamais vraiment fait attention à cette région-là du Canada, car elle était difficile à cultiver. Les hommes étaient donc relativement libres de mener la vie qu'ils voulaient. Mais une fois qu'on y trouvait des ressources, de l'or, du pétrole, ça a tout changé. La colonisation ne concerne pas uniquement l'accaparement des terres, mais aussi celle des esprits. Il fallait que les gens se voient à travers les yeux des Blancs d'Europe de l'Ouest. C'est aussi de ça qu'il s'agit dans le livre, ce processus de décolonisation, ou comment retrouver sa propre identité et se détacher du regard des Occidentaux.
Et quels sont les personnages qu'on croise, Amélie, en dehors de Shona et Joe Sacco?
Alors, il y en a énormément. Joe Sacco a retranscrit le plus fidèlement possible ses discussions avec tous ses interlocuteurs, mais il s'est aussi permis de faire revivre certains fantômes des territoires nord-ouest pour qu'on puisse bien comprendre toute l'histoire de la région. Alors, on croise par exemple des prêtres missionnaires, le roi anglais Charles II qui a cédé les terres du nord-ouest à une compagnie commerciale sans en avertir ses habitants, bien sûr, ou encore les nonnes des pensionnats dans lesquels étaient envoyés les enfants d'aînés de force et qui s'adonnaient à des sévices corporels absolument abjects.
Donc un livre très complet et documenté pour découvrir l'histoire de cette région du Canada, Amélie, mais aussi très utile pour comprendre la culture des dénés.
Oui, l'exemple parfait, c'est ce vieil homme avec qui discute Joe Sacco. Il lui parle de ses parties de chasse avec son grand-père et des cadeaux qu'il apporte à la terre lorsqu'il va lui prendre quelque chose en retour. C'est d'ailleurs de cette expression que ce livre, « Payer la terre », tire son nom.
Les indigènes avec qui j'ai discuté m'ont dit que lorsqu'ils se rendaient dans la forêt pour chasser ou simplement pour se balader, ils donnent quelque chose à la terre. C'est une sorte d'offrande, de cadeau. C'est en général la première chose qu'ils font avant de commencer ce qu'ils allaient faire dans la forêt. Et ils appellent ça « payer la terre ». Je trouve que c'est une très belle expression. Ça illustre bien leur connexion spirituelle avec la terre.
Autre exemple, Amélie, l'importance de la transmission orale.
Oui, c'est l'une des raisons pour laquelle les traditions d'aînés sont en danger d'ailleurs. Il existe bien des livres pour porter la mémoire des anciens, mais les aînés ne sont pas du tout à l'aise avec ce mode d'enseignement.
Une jeune femme me racontait qu'un jour, alors que sa tante ou sa grande-tante lui enseignait comment tendre les peaux d'orignal, elle s'est mise à prendre des notes. Et la vieille dame lui demande « Mais pourquoi tu prends des notes ? Écoute-moi simplement. En gros, oublie l'éducation à l'occidentale. Écoute, observe, apprends des exemples. C'est une forme d'enseignement différente. »
D'ailleurs, en tant que journaliste sur place, Joe Sacco me racontait que quelquefois, ses interlocuteurs lui demandaient de l'argent en échange de leurs témoignages. C'est une question déontologique sur laquelle il n'a pas transigé, mais tout de même, il comprend parfaitement la démarche.
C'est une communauté qui a été exploitée dans notre monde, pas seulement par l'extraction des ressources, mais aussi par les chercheurs, les anthropologues et tous ceux qui ont bâti leur carrière sur l'étude des modes de vie des autres peuples. Parfois, on me disait, vous savez, des gens viennent nous voir et prennent notre savoir. car c'est tout ce qu'ils ont, le savoir. Ils l'emportent, et qu'est-ce qu'on en tire, nous? C'est aussi une forme d'extraction de venir pour demander aux populations de raconter comment elles vivaient autrefois. Alors je les comprends. Mais vous savez, le journalisme est une discipline compliquée, et j'apprends tous les jours pour réussir à aborder le sujet de la bonne façon.
In fine, Josako a voulu qu'on puisse aussi s'inspirer des Dénés et de la belle relation qu'ils entretiennent avec la Terre. Chez eux, les concepts de culture et de nature ne s'opposent pas, mais forment un tout cohérent dont il faut prendre soin.
Payer la Terre à la rencontre des Premières Nations du Nord-Ouest canadien. Un album paru aux éditions Futuropolis en coédition avec la revue 21, signé donc Josako. Merci Amélie. Quant à vous, Marjorie, vous êtes allée au musée Bourdelle à Paris voir la première exposition française consacrée au sculpteur symboliste Niels Hansen Jacobsen, qui est né au Danemark en 1861, où il est mort en 1941. Mais entre-temps, il aura passé 10 ans à Paris dans un atelier de la cité Fleury, boulevard Arago, dans le 14e arrondissement. Et c'est cette période que retrace justement le musée Bourdelle.
Oui, parce que c'est une période florissante pour Jacobsen, qui réalise à Paris donc des sculptures, évidemment, des masques, mais aussi des grès et des plats un peu étranges dans lesquels on sent énormément l'influence des légendes et des mythes danois. Et c'est ce que nous explique Jérôme Godot, le commissaire absolument passionnant de cette exposition.
C'est comme si ce voyage dans l'espace lui avait permis d'approcher au plus près de ce qui était finalement son héritage danois propre. Au fond, c'est comme s'il pouvait retrouver l'étrangeté d'une langue maternelle à travers un déplacement spatial. C'est un transfert, en fait. C'est un transfert, et le symbolisme, c'est aussi un transfert. Donc, c'est très curieux, parce que finalement, le symbolisme, c'est évoquer quelque chose pour parler de quelque chose d'autre. Et donc, les images qu'il va évoquer vont lui permettre peut-être de montrer ce qu'on ne pouvait pas, ce qu'on n'osait pas montrer, et de pouvoir dire ce qu'on n'osait pas dire.
Et alors Marjorie, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas dire?
Peut-être qu'il était difficile de montrer une certaine sauvagerie de l'âme humaine. Et Jacobsen interroge beaucoup le féminin dans ce qu'il a d'inquiétant. Donc là, l'exposition, elle s'articule autour de 5 sculptures qui sont saisissantes et qui ont des noms très évocateurs aussi. Il y a la petite sirène, le masque de l'automne, le troll, l'ombre et la mort et la mer.
Mais Marjorie, ça sonne un peu comme des titres de contes quand même.
Oui, justement, parce que ce sont des sculptures qui s'inspirent aussi des contes d'Edgar Poe et d'Andersen. Donc c'est un climat inquiétant dans lequel on plonge progressivement. La première salle consacrée à l'eau et aux rêves s'ouvre d'ailleurs sur une sculpture de la petite sirène.
Oui, sauf que c'est quand même pas inquiétant comme conte, la petite sirène. Vous trouvez ça inquiétant, vous?
De toute façon, les contes ont des dimensions symboliques très fortes et on les connaît pas si bien qu'on pourrait le penser. Écoutons ce qu'en dit Jérôme Godot.
La première figure étrange que vous avez sous les yeux, c'est bien celle de la petite sirène, c'est la petite sirène d'Andersen. Et vous voyez ce plâtre blanc, cette jeune femme avec sa queue de poisson qui participe du coquillage de l'anémone de mer et dont le buste semble en même temps s'élever dans les airs. Vous savez, la petite sirène, c'est un conte très triste. C'est un conte entre la déchirure, j'allais dire, du corps et de l'âme, puisque cette petite sirène qui rêve d'avoir une âme immortelle, au prix d'une double souffrance, perdre sa voix, perdre sa queue de poisson pour avoir des jambes, mais à chaque pas qu'elle faisait, c'est comme si elle marchait sur des couteaux tranchants. Donc il y a toute une sorte de mélancolie à travers la figure féminine et cette figure ondulatoire, parce qu'elle est, inscrite dans une espèce de spirale et on ne sait pas si elle plonge dans cet univers aquatique des profondeurs qui serait un univers sensoriel et délicieux, ou si au contraire elle est aspirée vers le haut et dans une sorte de désincarnation douloureuse.
Alors ça change effectivement un petit peu la vision qu'on avait pu avoir de la petite sirène. Marjorie, est-ce que pour autant c'est une exposition que vous déconseillez aux enfants?
Aux petits-enfants non accompagnés, peut-être, parce que c'est vraiment des contes cruels et une exposition très saisissante. Bon, faut dire aussi que la scénographie est magnifique. Elle est très ondulatoire, il y a des murs vert sombre très enveloppants et on plonge dans cette inquiétude comme dans une forêt. Et Jacobsen est mis en correspondance avec d'autres sculpteurs, avec des peintres, avec tout un tas d'artistes du 19e siècle qui représentent des portraits de sorcières, de meurtrières, de méduses.
Les méduses comme les poissons?
Ah non, alors rien à voir avec vos cauchemars de plage, Jean-François, mais on reste dans le cauchemar quand même.
Oui.
Là, c'est la Gorgone.
Ah oui.
Ah oui, vous savez, cette figure mythologique qui a des anguilles en guise de chevelure et qui vous observe de son regard pénétrant.
C'est une des pièces maîtresses de l'exposition et c'est cette tête de Méduse de Böcklin, ce bouclier en papier mâché, avec cette figure de Méduse qui semble assister à sa propre décollation. Et si vous vous mettez vraiment dans l'axe, c'est comme si elle voyait la mort qui serait derrière chacun des visiteurs qui est en train de la contempler. Donc là, c'est la réactualisation de la figure de Méduse, qui est une espèce de figure totémique. Elle était sur le bouclier d'Athéna, on la mettait au fronton des temples. C'était un objet qui renvoyait à la hantise de la mort et de la décomposition et qui figeait littéralement celui qui pouvait la regarder. C'est très symbolique et symptomatique que le symbolisme ressuscite cette figure première de la Méduse qu'on retrouve dans toutes les figures de Salomé, dans toutes les figures de pieuvre ou de sirène maléfique qui sont autant de figures de femmes phalliques et castratrices.
Bon, des figures de féminin plutôt effrayantes, mais vous m'avez dit quand même, Marjorie, que vous avez aussi été confrontée à un troll géant, rien que ça.
Ouais, et en plus, c'est une statue qui a l'air de vouloir dévorer ses visiteurs.
Ces trolls qui flairent la chair de chrétiens, c'est une figure fondatrice dans la mythologie des pays du Nord. On ne sait pas très bien si c'est un ogre, est-ce que c'est un être humain, mais il a eu en même temps des serres d'animaux, il a une queue, il a des cornes, il a des griffes à la place des pieds. Son masque est visiblement inspiré des masques du théâtre japonais, mais aussi des gargouilles de Notre-Dame que Jacobsen a vues à Paris. Et en tout cas, le troll, c'est un monstre qui est caché dans les forêts ou dans les anfractuosités des rochers pour s'emparer des femmes et des enfants et les dévorer.
Donc vous venez de l'entendre, c'est vraiment des pulsions archaïques qui sont convoquées dans ces sculptures et ces masques. Donc une exposition onirique qui est bien faite aussi parce que la confrontation avec d'autres artistes donne une idée extrêmement complète du symbolisme et de l'art nouveau. Alors il y a des céramiques de Gauguin, des compositions de Grasset, d'Odilon Redon, de Kupka, des peintures de Gustave Moreau et même les sculptures sataniques de Boleslas Biega. Alors on n'aurait pas le temps de tout citer, Jean-François, vous l'aurez compris, il faut surtout y aller.
Voilà, c'est au musée Bourdelle jusqu'au 31 mai.
Concrete and Glass, c'est une référence aux maisons de l'architecture moderniste qui m'ont inspiré. C'est le béton et le verre, l'architecture sensuelle que j'aime beaucoup. Je ne veux pas trop qu'ils pensent que c'est un album conceptuel très prétentieux parce que c'est plutôt de la musique assez pop. J'ai toujours besoin que la musique soit facile d'accès. C'est ce qui m'a permis de faire une carrière malgré le fait qu'elle n'était pas très commerciale.
Nicolas Godin, pionnier de la French Touch, revient José avec Concrete and Glass. C'est le troisième album solo du cofondateur de R, le célèbre duo versaillais, connu mondialement évidemment.
Et oui, en 1998, il donne le la à l'électro-française avec ça.
Forcément, ça dit quelque chose à tout le monde. Alors, Moon Safari, hein, c'est ça, c'est le disque de l'année. Et du coup, R s'est envolé.
Vers des sommets, il enchaîne les succès, signe des chefs-d'œuvre addictifs comme Talkie Walkie, album réalisé, s'il vous plaît, par Nigel Godrich, producteur de Radiohead. Eh bien Jean-François, sur les murs du studio parisien de Nicolas Godin, les disques d'or et de platine récompensant près de 6 millions d'albums vendus confirment bien leur triomphe mondial.
Et l'inactivité discographique d'Air depuis 2014, ça commençait à faire un petit bout de temps, a poussé Nicolas Godin à se régénérer.
Oui, il se plonge dans l'univers de Bach pour faire son premier album, brillant d'ailleurs, un album solo contrepoint avant de composer la musique de la série au service de la France. Pour Arte, cette fois-ci, c'est une proposition de l'artiste contemporain Xavier Veillant qui est à l'origine de Concrete and Glass.
L'artiste français Xavier Veillant, qui a fait des expositions dans le monde entier sur l'architecture, il m'a demandé si j'étais intéressé par mettre en musique ces expositions. Pendant un an et demi, dans chaque maison qu'il a investie, dans laquelle il a exposé ses œuvres, j'ai créé de la musique pour accompagner les expositions et de la musique qui était inspirée par des belles maisons à Los Angeles, de John Notner, de Richard Notra, Quand cela a été fini, je me suis retrouvé avec toutes ces mélodies et j'ai voulu un peu contourner le cliché de l'art contemporain. Ou moi, quand je vis dans des musées, où j'entends souvent la musique qui est associée à l'art, c'est souvent des choses très abstraites. Et donc, je voulais qu'on puisse un peu quand même chanter des chansons sous la douche. Justement, j'ai demandé à des chanteurs et des chanteuses s'ils avaient des idées pour transformer ces mélodies en chansons et les enregistrer pour qu'il y ait une trace. C'est comme ça que l'album s'est fait.
Et des invités triés sur le volet comme Cola Boy ou Alexis Taylor de Hot Chip pour prêter leur voix à cet album.
Oui, ces chansons éthérées, sans détour, en ligne droite et épurées, bâtissent la cité imaginaire de cet ancien élève de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Nicolas Gaudin, dandy, sculpteur de son, côtoie la légèreté et les instants de grandes messes électroniques, toujours en quête de nouveaux concept, il va jusqu'à évoquer la notion de frontière dans l'architecture, dans ce titre de Border.
C'est une chanson sur Mies van der Rohe qui, en 1929, a créé le pavillon de Barcelone à l'exposition universelle. C'est une sorte de bâtiment qui a révolutionné l'histoire de l'architecture et qui était dans l'abstraction totale, qui était dans la pureté totale, qui était dans la sobriété folle, quelque chose qui a rejeté toute ornementation de l'architecture du passé. Et donc j'imaginais Mies van der Rohe donner rendez-vous à ses disciples à la frontière pour changer le monde. Et finalement, par extrapolation, la chanson parle de tous les gens qui quittent tout ce qu'ils ont pour essayer de trouver un avenir ailleurs et d'essayer de commencer une nouvelle vie. J'adore cette notion de tout quitter pour tout recommencer.
Du coup, comme dirait quelqu'un que je connais bien, son nouvel album, c'est en quelque sorte un retour aux sources.
Exactement, le Versaillais de 50 ans, créateur de fresques électropop, s'est réapproprié son vieux vocodeur Kirk D, que vous connaissez.
Ah bah, oui.
C'est avec, voilà, c'est avec cet engin que R a créé donc ses 8 albums pour avoir une voix céleste, pas celle d'un robot.
J'ai une relation particulière avec ce vocodeur parce que c'est ça qui m'a fait connaître. Avec R, on l'a beaucoup utilisé au départ. Et j'ai très vite voulu essayer de faire des choses différentes parce que je voulais que chaque album de R, ce soit un univers différent. Donc j'ai laissé tomber le vocodeur assez vite. C'était un peu trop tourné vers ce que j'ai fait dans le passé. Moi, j'aime beaucoup me renouveler. Et là, après tant d'années, je crois que j'accepte que c'est un peu mon style, le vocodeur. Et j'ai eu de nouveau envie d'enregistrer avec. Chaque année qui passe, on est quelqu'un de différent. Des choses qui étaient inconcevables il y a quelques années, d'un coup, on a envie d'y retourner. J'ai envie de ressortir mon vocodeur.
Concrete and Glass, troisième album de Nicolas Gaudin, donc la moitié du duo emblématique de la French Touch R. Merci beaucoup, José. Merci également à Fanny, Amélie et Marjorie. Dans un instant, le journal. Bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi avec l'écrivain Pierre Assouline de l'Académie Goncourt pour un livre autour de Rudyard Kipling. Tu seras un homme, mon fils, paru chez Gallimard. Et vous m'en direz des nouvelles.
Géopolitique.